Le grand entretien, c'est désormais votre rendez-vous vers jusqu'à 8h40, pardon, les questions de Léa Salamé et les vôtres, amis auditeurs, dans une dizaine de minutes. Notre invité ce matin est le ministre de l'Éducation nationale. Bonjour et bienvenue, Jean-Michel Blanquer.
Bonjour.
Vous vous déplacez aujourd'hui, monsieur le ministre, avec Brigitte Macron à Dijon sur le thème du harcèlement à l'école. Pourquoi maintenant et pour dire quoi ?
D'abord, pourquoi maintenant ? Parce que c'est un jour comme les autres, justement. Et que, normalement, il y a une journée du harcèlement qui a lieu à la fin de l'année, donc qui a déjà eu lieu à la fin de l'année 2017. Et je m'étais dit que plusieurs fois dans l'année, je rappellerai que c'est un thème important. Pour bien montrer que c'est un des sujets qui peut miner un système scolaire. C'est vrai en France, c'est vrai malheureusement dans pratiquement tous les pays. Et donc, comme c'est un sujet de société, un sujet extrêmement important, on se doit d'alerter, on se doit d'en faire un sujet permanent et pas seulement le sujet d'une journée.
Le phénomène prend de l'ampleur ?
Le phénomène, il a pris une ampleur, si j'ose dire, qualitative, parce que par le cyberharcèlement en particulier. C'est-à-dire que le harcèlement, ça a toujours existé. Si on trouve dans la littérature un certain nombre d'exemples, malheureusement. Mais d'abord, on ne peut pas s'en accommoder. C'est pas parce que ça a toujours existé qu'on peut s'en accommoder. Au contraire, je pense que c'est même le point de départ de ce respect d'autrui qui me paraît si essentiel dans l'école de la République. Et puis, il a pris des formes nouvelles, notamment avec avec Internet, avec les smartphones qui donnent et les réseaux sociaux qui donnent des...
Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ?
Bon, on peut faire beaucoup de choses. D'abord, la première des choses, évidemment, c'est de sensibiliser les enfants. Il faut que, dès le début, dès l'école maternelle, on leur transmette des valeurs de respect des autres, tout simplement. Or, on voit bien qu'il y a déjà quelque chose d'essentiel qui se joue dès les premières années, d'esprit de coopération, d'esprit d'amitié, d'esprit de protection du plus faible. Toutes ces choses qui, finalement, paraissent naturelles. Mais qui en réalité ne le sont pas tant que ça.
Il faut les apprendre.
Et il faut les apprendre, oui, il faut les montrer aussi. L'exemple est extrêmement important. Et donc, pour moi, c'est le premier des sujets, évidemment, c'est le sujet qu'on pourrait appeler éducatif, qui va de pair d'ailleurs avec le dialogue avec les parents, parce qu'on sait très bien que c'est dans la coéducation, dans la convergence entre l'école et les parents, que se jouent les grands enjeux éducatifs.
Et sortir les téléphones portables des établissements scolaires, ça n'est pas nécessairement lié, mais...
C'est une des raisons.
C'est l'un des sujets aussi, on en est où ? Comment allez-vous faire, là ?
Bien, d'une part, vous avez quand même raison d'évoquer ça à cette occasion, puisque c'est lié. Ça n'est pas la seule raison qu'il y a d'interdire les téléphones portables au collège, mais c'en est une importante. Les sujets sont quand même liés, en effet. Donc, oui, ils seront, comme je l'ai déjà dit, interdits à partir de septembre prochain dans les collèges, non seulement en classe, mais aussi dans l'établissement. Ce sera donc l'objet d'un article législatif prochainement, pour que ce soit juridiquement bien assis, si je puis dire. Et puis, le plan pratique...
Comment
ce sera très simple.
Les téléphones portables
sont interdits dans les établissements scolaires,
dans les collèges
publics. Et cette interdiction, après, elle se réalisera de différentes façons et on laissera au collège le soin de choisir entre plusieurs modalités d'interdiction qui vont de
ça
la plus souple à la plus dure. C'est pas encore tout à fait établi. Nous discutons encore avec un certain nombre d'interlocuteurs de cela.
Les pistes,
si vous voulez, la plus dure, c'est la version la plus dure, mais qui existe parfois déjà dans certains établissements et qui s'en trouve bien. C'est tout simplement qu'on ne peut pas venir avec le téléphone.
Et fouille à corps.
C'est qu'après, évidemment, si ça n'est pas le cas, on est sanctionné, bien sûr. La loi doit permettre aussi de pouvoir confisquer le téléphone portable en tant que de besoin. Et puis la version la plus souple, c'est comme ça existe aussi dans certains collèges, de pouvoir l'enfermer peut-être dans un petit sac spécifique à l'intérieur du cartable pour pouvoir le ressortir s'il y a des usages pédagogiques, s'il y a des urgences aussi. Donc on doit traiter toute une série de questions qui vont autour de cette interdiction.
Et ça, c'est pour quand donc ce texte ?
Ce texte est au cours des prochaines semaines. Et la réalité effective des choses, ce sera à la rentrée prochaine.
Alors, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, êtes-vous en train de déshabiller les campagnes pour permettre à la promesse de campagne, de campagne présidentielle cette fois, de dédoubler un certain nombre de classes de CP là où il y a le plus de problèmes. On a entendu Marine Le Pen comparer ce phénomène à la réforme de la SNCF. On ferme les petites lignes pour la SNCF et on ferme les petites classes à la campagne. Est-ce que c'est vrai, d'après vous, pour commencer? Et si oui, sinon, est-ce que vous pouvez le démentir fermement?
Alors, premièrement, je le dément très fermement. Et je vais évidemment vous donner les éléments pour cela. Et en même temps, je prends ce sujet très au sérieux. Parce que je suis le premier fervent partisan des écoles rurales. Mmh. On a besoin des écoles rurales et nous travaillons justement pour préserver les écoles rurales. Ensuite, nous avons une démographie qui est ce qu'elle est en France. À la rentrée prochaine, il y aura environ 32 000 élèves en moins à l'école primaire en France. Et sur ces 32 000, beaucoup qui ne seront pas là, si je puis dire, beaucoup relèvent des départements ruraux. Bien, normalement, dans un système étal, nous aurions des suppressions de postes, tout simplement, dans les endroits en question. Or, nous créons 3 800 postes à la rentrée prochaine. Ces 3 800 postes sont supérieurs à ceux dont nous aurions besoin pour créer les dédoublements de CP en REP et même de CE1 en REP+. Et donc, nous avons au contraire cette année une attention plus forte vis-à-vis des écoles de campagne. Il faut faire une différence entre fermeture de classe et fermeture d'école. Des fermetures de classe, il y en a eu et il y en aura toujours. C'est normal, il y a des mouvements de population et le nombre de fermetures qu'il y aura cette année sera à peu près l'équivalent de ce qu'il y a eu les années précédentes. Donc il n'y a rien d'anormal dans ce qui se passe. Simplement, il y a aujourd'hui des gens de bonne foi qui s'inquiètent de l'évolution de la démographie rurale. Et ils ont raison, on doit travailler ensemble pour changer cela. Et je suis engagé en ce moment justement dans une politique de reconquête du rural. On va créer des internats ruraux, on va travailler à l'innovation pédagogique en milieu rural. Donc on va redynamiser le rural pour faire envie. Et donc je suis l'interlocuteur de ces personnes de bonne foi parce qu'ensemble, on peut faire cette renaissance du rural. Et il y a aussi des gens de mauvaise foi.
Voilà, mais alors on arrive à la mauvaise foi.
Ils ont été nombreux.
Mais il y a quand même de inquiétude, y compris chez les personnes de bonne foi, Jean-Michel Blanquer.
Bien sûr, c'est
ça. Et donc là, vous leur dites, attention, engagement de la rue de Grenelle, engagement de Paris, il n'y aura pas, comme il y a eu, moins de postes, moins de commerces, moins de services publics, il n'y aura pas moins d'écoles.
Oui, parce que ce que nous sommes en train de faire en ce moment, et ce qui est d'ailleurs dans une certaine continuité avec ce qui se passe depuis plusieurs années, mais que nous allons accentuer et améliorer, c'est nous allons créer des conventions départementales de ruralité. Certaines sont déjà signées, nous allons en signer d'autres, en renouveler d'autres, et nous allons les approfondir, notamment pour avoir une stratégie pluriannuelle relative au rural. Cette stratégie pluriannuelle doit nous permettre de mettre les moyens adéquats en face des constats que l'on fait et surtout d'avoir des stratégies partagées. Parfois, c'est normal de supprimer une école quand il n'y a plus d'enfants dans un village, ça finit par arriver. Mais néanmoins, il faut avoir prévu cela à l'avance, reconcentrer dans un endroit où c'est bien fait, où les transports scolaires sont bien conçus, etc. À chaque fois, c'est l'intérêt de l'élève qui doit primer. Chaque cas est un cas particulier.
Combien de classes fermées en zone rurale à la rentrée?
Ah mais c'est de l'ordre de 200 ou 300, grand maximum. Mmh. Autrement dit, et j'ai même vu des endroits, si vous voulez, où nous créons... Là, c'est il faut parler de ce qu'on ferme, mais il faut aussi parler de ce que l'on ouvre. On ouvre plus de classes que ce que l'on ferme. J'ai vu des départements, si vous voulez, j'ai même été interpellé à l'Assemblée par des députés de départements qui protestaient contre ce soi-disant sacrifice du rural. Et c'était des départements où on créait des postes. Et donc, si vous voulez, là, par exemple, le député auquel je pense, il me parlait d'une école où on passait de 15 classes à 14 classes. Ça n'a absolument rien de dramatique. C'est sûrement justifié par les circonstances locales.
Et Marie
dans
le Pen,
même
donc...
département, on divise des classes de CP par deux, on crée des classes en milieu rural, on préserve des écoles qu'on aurait supprimées
donc
dans d'autres.
Les grands équilibres sont...
Donc en fait, il faut faire très attention. Il y a à la fois un sujet très sérieux, extrêmement sérieux, un des plus importants qui soit, parce que c'est un sujet pour la France, pour le futur, pour notre territoire tel que nous pouvons le vouloir pour le futur. Donc c'est un sujet très sérieux et qui mérite de se parler et de travailler. Mais je dis qu'il faut faire attention à tous les discours politiciens,
de mauvaise foi,
si vous voulez, qui en réalité essayent de caricaturer la réalité pour monter les gens les uns contre les autres, et notamment le rural contre l'urbain, ce qui est vraiment une très mauvaise chose à faire. Et ça vient, je le signale, de la gauche comme de la droite.
À quel âge un enfant doit-il entrer à l'école, Jean-Michel Blanquer?
Eh bien, ça dépend de chaque enfant.
Il y a un système unique jusqu'à présent.
Si vous voulez, il y a un système à trois cliquets, si je puis dire, puisqu'on a la scolarité obligatoire est à 6 ans. Il est naturel d'entrer à l'école à 3 ans en France depuis bien longtemps. C'est 97% des enfants qui sont dans ce cas. Et puis, il y a la scolarisation à 2 ans qui est aussi quelque chose d'intéressant. Mmh. Notamment pour lutter contre les inégalités, parce que certains enfants sont venus à l'école maternelle avant.
Où en êtes-vous?
J'en suis, alors là, sur ce sujet, je suis d'un pragmatisme d'airain.
Non, mais ça, d'accord.
Il y a à peu près 11 à 12%.
C'est quoi les alternatives du pragmatisme?
Eh bien, c'est tout simplement de travailler dans l'intérêt de l'enfant.
Donc, okay.
Nous avons 11 à 12% des élèves, je crois, à peu près en ce moment, qui sont de 2 ans, qui sont à l'école. Nous continuons cette politique. Il y a une étude récente qui montrait que ce n'était pas si certain que cela avait un intérêt pour les élèves en question. On va donc approfondir. Pour l'instant, on ne change pas cette politique. Donc, on continue à scolariser à 2 ans pour ceux qui le veulent, et notamment dans les territoires les plus défavorisés, ce qui inclut l'urbain et le rural.
Mais
j'insiste
sur
ce point.
Vous pourriez revenir là-dessus, sur les 2 ans, justement?
Je suis pas, en tout cas, c'est pas mon inclination naturelle. Je sais que, vous savez, c'est un cas typique, parce que l'inquiétude que vous formulez, c'est parce que, il y a quelques semaines, devant une commission de l'Assemblée, j'ai simplement fait mention de cette étude de France Stratégie, disant qu'il y avait un doute sur l'intérêt de la scolarisation par deux. Et comme on est pas encore tout à fait dans la société de confiance que l'on pourrait souhaiter, eh bien un tel propos est immédiatement interprété comme il veut supprimer la scolarisation à 2 ans.
Non, mais on veut juste savoir s'il y a un chantier ou si c'était juste une interrogation à voix haute.
Ce que nous faisons, on va être vraiment très, encore une fois, très pragmatique, puisque à la fin du mois de mars, il y a les assises de la maternelle qui seront sous la responsabilité de Boris Cyrulnik, pendant lesquelles on va travailler sur justement la maternelle du 21e siècle. Et on va évidemment traiter cette question-là, et on va la traiter en cohérence avec ce qui se passe pour la petite enfance, parce que ce qui est certain, c'est qu'il faut une politique de la petite enfance, et Agnès Buzyn travaille à cela sur la période 0-2 ans ou 0-3 ans. Il doit y avoir une cohérence entre la politique des crèches et la politique des écoles maternelles, et l'éducation nationale peut apporter sa pierre avec la scolarisation à 2 ans, mais dès lors que ça sert à quelque chose, et c'est cela qu'on doit démontrer.
Monsieur le ministre, vous avez donné votre feu vert à Christian Estrosi à Nice, qui veut expérimenter la présence permanente d'un policier non armé dans 3 écoles de la ville. L'expérimentation démarre ce mois-ci. Si ça marche, est-ce que vous allez l'étendre à la rentrée prochaine à toute la France? Est-ce qu'il y aura un policier dans toutes les écoles de France? C'est possible, c'est envisageable?
Non, l'idée n'est pas celle-là. L'idée était de faire une expérimentation, de voir si cela avait un impact sur toute une série d'ailleurs de facteurs qui sont regardés de près à Nice. Comme vous le savez, en plus, Nice est une ville qui a été particulièrement traumatisée sur les sujets de sécurité. Et donc, l'idée qu'un policier municipal non armé puisse contribuer à développer l'esprit de sécurité dans des écoles a paru intéressant à expérimenter. Donc,
mais si ça marche, pourquoi vous l'étendez?
Si ça marche, il faudrait que ça s'étende à Nice. Ensuite, ça dépend de chaque municipalité. Mais c'est pas quelque chose que je pousse particulièrement. C'est juste simplement quelque chose qui...
Ça vous effraie pas, un policier dans une école?
Non, je pense que la relation école-police est un sujet très important, dont j'aurai l'occasion de parler d'ailleurs dans les prochains temps, pas seulement sous cette forme-là, si vous voulez. On parle sans arrêt, par exemple, de la mauvaise relation qu'il y a entre les policiers et les jeunes. Je pense que si dès l'enfance, vous avez été habitué à voir sous un angle coopératif, sous un angle positif, ce qu'est un gardien de la paix, n'oublions pas ce que signifie ce mot, ou ce qu'est un policier municipal qui est là pour vous faire traverser la rue, qui est là pour vous aider, ce qui n'est pas là pour autre chose. Donc, tout cet état d'esprit de confiance entre la société et ses forces publiques me paraît au contraire quelque chose qui se travaille à l'école. Et par exemple, vous voyez, quand on veut lutter contre la drogue, c'est important que des policiers viennent à l'école pour en parler, etc. Donc, il faut dédramatiser la relation sans pour autant, évidemment, avoir l'émergence de forces de police
partout
dans les écoles. Non.
J'avais envie d'entendre le ministre de l'Éducation sur mai 68. On fête les 50 ans cette année. Qu'est-ce que vous en pensez de mai 68? Que c'était une libération salutaire ou que c'est le début de la fin? Que c'est la grande déconstruction de l'école?
Alors, c'est la deuxième fois qu'on m'interroge là-dessus sur France Inter et j'observe que c'est un sujet important.
Ça n'est pas pour vous?
C'est important, oui. C'est un sujet intellectuel.
Il me semble qu'il n'y a pas
d'abord.
Que sur France Inter que vous avez été interrogé.
Oui, bien sûr. Non.
Dans des presses de droite également.
On parle souvent de mai 68. Oui. C'est vrai que mai 68, c'est important. Et c'est un sujet auquel j'ai pas mal réfléchi sous l'angle intellectuel d'ailleurs, parce que je pense qu'il s'est passé à ce moment-là quelque chose qui, sur le plan intellectuel, a été décisif dans, non pas mai 68 en tant que tel, mais ce que mai 68 a cristallisé à un moment donné. Et il y a notamment de grands auteurs qui ont eu beaucoup d'influence par la suite. J'ai souvent beaucoup de révérence pour ces auteurs et un peu moins pour ce qu'on a fait de leur œuvre et d'une certaine façon les interprétations dont nous vivons aujourd'hui.
Quels auteurs?
Oh bah, on peut parler de, bah, de Michel Foucault, évidemment, on peut parler de Derrida, on peut parler de, non seulement des auteurs que Luc Ferry a rassemblés sous l'appellation Pensée 68, mais même de façon plus éparse, des auteurs qui sont d'ailleurs très différents les uns des autres, qu'on a souvent regroupés sous l'appellation Mai 68, mais je crois que derrière Mai 68, il y a aussi beaucoup de malentendus, parce que il y a des pensées extrêmement diverses, ça va de l'hyper-individualisme à l'hyper-collectivisme, par exemple, donc on met derrière Mai 68 beaucoup de choses, c'est pourquoi je suis toujours un peu mal à l'aise pour répondre à cela, parce que je le vois à la fois comme un moment d'histoire de France, après tout, un peu comme 1848.
Il faut commémorer.
Je ne suis pas non plus un fanatique de la commémoration, et il y a évidemment un paradoxe à commémorer quelque chose qui s'établissait contre, d'une certaine façon, contre les commémorations. Donc, mais ce n'est pas quelque chose qui me gêne, ni quelque chose que j'appelle particulièrement mes voeux.
Très rapidement, Antoine Gallimard a dit hier avoir suspendu sa décision de publier les pamphlets antisémites de Céline, mais il ne renonce pas à le faire plus tard, dit-il. Est-ce qu'il faut les publier ou non ?
Bah écoutez, si j'étais éditeur, je ne les publierais pas. Mais maintenant, est-ce que notre état de droit doit aller jusqu'à empêcher la liberté d'éditer ? Il y a évidemment un certain seuil à partir duquel il faut le faire. C'est pas à moi d'en juger, c'est pas dans ma compétence. Maintenant, si j'étais éditeur, je ne le ferais pas.
Allez, la parole aux auditeurs de France Inter. Bonjour Zachary.
Bonjour.
Lycéen, je crois, Zachary.
C'est ça, donc je suis lycéen. Merci. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour.
On entend souvent reprocher à des élèves d'être trop scolaires, donc assez paradoxalement, en fait, de n'avoir des compétences qui ne sont liées qu'à l'école et de ne mobiliser que celles-là à l'école. Et donc, pour votre grand oral, auquel je suis pas opposé parce que je pense que c'est une composante quand même de la vie professionnelle et sociale qui doit être maîtrisée, mais on demande quand même de mobiliser des attitudes, des intonations qui sont très codifiées et qui sont pas discriminantes à l'écrit et qui, là, le sont. Donc comment est-ce que vous pourriez combler cet écart de dotation en capital culturel en fait qui vient de la famille, du milieu dont on est issu ? Donc comment est-ce que l'école peut remédier à cela ?
Merci Zachary pour cette question. Jean-Michel Blanquer.
Bon, c'est une très bonne question et c'est précisément pour
cette raison.
Très bien formulé aussi. Et c'est précisément pour cette raison qu'on a créé cet oral du baccalauréat. C'est pour travailler en amont du baccalauréat sur l'oral. Parce que l'oral, c'est important dans la vie. On est tous en situation, comme Zachary vient de le faire, à un moment donné, de s'exprimer, d'avoir à défendre quelque chose dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Et donc, il faut absolument compenser les inégalités qui peuvent exister très jeunes sur cette question. Donc, c'est l'ensemble de l'école française, dès l'école maternelle, qui doit être mobilisé sur un français écrit et oral de très grande qualité. Je n'oppose évidemment pas l'oral et l'écrit. Et d'ailleurs, l'expression « être trop scolaire », c'est pas une expression que je reprends à mon compte, parce que j'aimerais bien que tout le monde soit très scolaire en France, dès lors qu'on reprend l'étymologie de ce mot et ce qu'elle a de libérateur, justement. Mais en tout cas, l'oral, préparé à l'oral, c'est fondamental. Donc je pense, pour répondre rapidement, hein, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, que ça va avoir une influence sur l'ensemble de notre système dès l'école primaire, que ça va passer par le renouveau d'un certain nombre de pratiques orales dans le cadre de chacun des cours, l'encouragement de certaines pratiques culturelles aussi, comme le théâtre notamment, et qui vont donc à partir de la rentrée prochaine être encouragées. Vous savez qu'on a encouragé les chorales, ça a parfois été commenté de diverses façons. Eh bien, la chorale, c'est une façon de sortir de soi-même,
oui, c'est bien de
s'exprimer,
chanter ensemble, c'est
chanter
agréable.
Ensemble, c'est très agréable.
Fabien, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Je voulais demander au ministre de l'Éducation s'il n'est pas temps, vu qu'on a beaucoup parlé ces dernières années de rythme scolaire, mais on n'a pas du tout abordé la question des vacances scolaires, notamment des grandes vacances d'été, qui sont quand même très longues, parfois trop longues d'ailleurs pour les parents qui ont du mal à faire garder leurs enfants pendant 8 semaines minimum, voire plus quand les enfants sont au chômage technique, disons, du fait des examens, et que les établissements sont fermés par anticipation. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps de réformer le rythme annuel des élèves, et non pas seulement le rythme hebdomadaire, ce qui allégera d'ailleurs aussi le rythme journalier, puisque en étalant sur plus de jours les cours, la même quantité de cours, on pourrait du coup alléger chaque jour de travail des élèves et par là même des professeurs. Mmh.
Merci Fabien pour cette question. Jean-Michel Blanquer.
C'est une très bonne question. Je vais être très prudent dans ma manière de vous répondre parce que chaque fois que j'ai répondu à cette question dans le passé, simplement pour évoquer des pistes, cela donne lieu à des interprétations qui ne sont pas indispensables. Mais vous avez tout à fait raison. Quand on pense au rythme de l'élève, il faut penser à la journée, à la semaine et à l'année. Et les vacances françaises posent évidemment un certain nombre de questions. C'est donc un dossier qui est ouvert, hein, je l'ai déjà dit, j'en parle avec un certain nombre d'interlocuteurs. Ça ne va pas changer demain matin, hein, ça changera peut-être à moyen terme, après de longues discussions que j'aurai avec de nombreux interlocuteurs. D'ores et déjà, mon but, c'est que les périodes de vacances, comme, de même que les périodes périscolaires, comme le mercredi en particulier, deviennent de plus en plus riches de propositions culturelles et naturelles et sportives pour les élèves. Mmh. Et vous savez, j'ai aussi la jeunesse et la vie associative dans mes compétences. Et par exemple, nous avons besoin d'avoir un renouveau des colonies de vacances. Les colonies de vacances ont de moins en moins d'enfants qui y vont. C'est quelque chose qui doit rebondir dans les années qui viennent et on va y travailler.
Une dernière question au standard. Bonjour Karine.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour à toute l'équipe de France Inter et bravo pour vos émissions et la qualité de toutes vos émissions. Voilà, je voulais interroger Monsieur le Ministre concernant l'enseignement des mathématiques. Dans la réforme du lycée, donc, les mathématiques ne figurent pas dans le tronc commun, c'est-à-dire qu'à partir de la classe de première, elles relèveront donc du choix des élèves. Les élèves pourront donc complètement abandonner cet enseignement. Or, dans le rapport Mathiot, les mathématiques figuraient dans le tronc commun. C'était en tout cas la proposition qui était faite. Et cela me semble également contradictoire avec le rapport Villani qui a été remis deux jours avant la réforme du lycée et qui préconisait justement un renforcement de cet enseignement, en particulier pour les élèves qui se destinent à être professeurs dans le premier degré.
Bien donc, compris, voilà. Bien reçu. Contradiction, point d'interrogation, Jean-Michel Blanquer.
Oui, d'abord, les mathématiques vont être très importantes dans le futur lycée. Il y a peut-être là un malentendu qui vous fait penser cela. D'abord, toutes les propositions Villani, il y en a 21, vont être retenues, dont celles que vous avez dites. Et s'agissant des mathématiques, elles sont en réalité dans les trois blocs qui composent le futur baccalauréat et le futur lycée. C'est dans le socle commun parce que ce qu'on appelle humanité scientifique et numérique va avoir une base mathématique réelle et approfondie. Deuxièmement, vous avez les mathématiques de spécialité, ça représente 4 heures en première, 6 heures en terminale. Et nous avons créé deux matières mathématiques supplémentaires dans le troisième bloc, ce qu'on appelle les options, avec les mathématiques expertes. Ça, c'est une conséquence du rapport Villani, c'est 3 heures. Autrement dit, si vous êtes un très matheux, vous ferez 6 heures plus 3 heures, ça fait 9 heures, contre 8 heures aujourd'hui. Et puis, on a créé mathématiques complémentaires, c'est-à-dire pour ceux qui ne prendraient pas mathématiques en matière de spécialité, qui pourront les prendre. Typiquement, quelqu'un qui va faire des études de médecine ensuite, qui prendrait SVT et physique-chimie, et qui ensuite prendrait mathématiques complémentaires 3 heures. Donc, il y a plusieurs configurations qui renforcent les mathématiques. Et évidemment, notre stratégie, c'est de renforcer les mathématiques, mais en même temps, ne pas le faire de manière indifférenciée, exactement de la même façon pour tout le monde, mais d'arriver à ce que chacun ait des mathématiques correspondant à son cursus.
Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, merci.
Merci à vous.
Merci Jean-Michel Blanquer d'avoir été ce matin au micro de France Inter.